Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici maintenant par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via internet, le magazine Énergie Positive tous les vendredis soirs à partir de 23h. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Élise Ferrand pour ce livre « Peau neuve, je ne cours plus après la vie, je la ressens ». Livre que vous pouvez trouver aux éditions Le Souffle d'Or. Élise, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission, Élise, pour ce livre Peau neuve. Je ne cours plus après la vie, je la ressens. Alors, je vais la faire simple pour cette introduction, pour les auditeurs. Pourquoi ce titre ?
Pourquoi ce titre ? Ah. Tout d'abord, peau neuve, parce que mon chemin, c'est un grand chemin de transformation, un chemin de guérison intérieure et un chemin qui est passé par la guérison de ma peau. J'étais quelqu'un qui avait énormément d'allergies, énormément d'eczéma, je somatisais beaucoup et via mon chemin, via les épreuves, les traumatismes que j'ai vécu, j'ai dû plonger l'intérieur de moi-même et tout ça pour arriver à qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire faire peau neuve, à la fois au niveau de mon corps, des plaies que j'ai dû panser, et au niveau de mon chemin de vie, parce que je ne suis plus du tout la même personne aujourd'hui.
Élise, je vais lire un passage que je trouve très fort dans ce livre. De même que je pense que ce livre, d'où le fait que tu sois notre invité ce soir, puisse parler à bon nombre d'auditeurs qui nous écoutent, que ça soit en lien avec des problèmes de peau et le pourquoi ce corps parle et dans quelle mesure on peut l'écouter et comment apprendre à l'écouter. Il y a en même temps le rapport que tu as eu avec ce regard vis-à-vis de la femme que tu es, à travers cette agression sexuelle, et du cheminement qui a été le tien dans le pardon, dans la reconnaissance quelque part que ça a été, même si l'événement est terrible, tu le mentionnes, hein, quelque part en même temps l'occasion de t'ouvrir à d'autres parties de toi. Sans cet événement, tu n'aurais peut-être pas été vers ces parties-là. Et tu le mentionnes dans le livre, quelque part, ce qui t'est arrivé, tu parles de bénédiction, c'est un mot qui est très fort, et en même temps, comme tu l'as précisé, bon nombre de femmes dans nos sociétés se font agresser, moralement ou physiquement, et physiquement, il y en a de très nombreuses, et c'est peut-être à travers ce témoignage que tu nous livres ce soir, peut-être d'envisager cet événement sous un autre angle, sous un autre regard. Ce n'est pas forcément évident de se remettre en question, d'aller, j'allais dire, découvrir ces parties de nous qui sont dans l'ombre. D'où justement cette lecture que je vais faire, qui est très courte, hein, mais qui pour moi est très révélatrice. Premier dialogue avec mon corps. Respecter mes limites, prendre soin de moi, m'écouter. Grâce à ma thérapie, je commence à réaliser l'influence que ma manière de penser a eue sur ma vie. J'ai mené une vie entièrement guidée par ma volonté. Volonté qui règne en maître, de manière despotique sur toute ma personne, faisant très souvent fi de mes besoins. L'idée même d'être assujetti à des besoins l'insupporte. J'appréhende le monde par ma pensée. Je suis ma tête, ma raison. Dans ma logique, mon corps est en quelque sorte mon hôte. Nous sommes ainsi deux à cohabiter dans un même royaume, et souvent bien malgré nous. Mon corps a son propre fonctionnement, un fonctionnement dont je, ma tête, ne comprend guère la logique, et dont je n'ai de cesse de vouloir repousser les limites, de vouloir contrôler. J'ai des désirs et des envies. Mon corps n'en est pas l'auteur, mais le serviteur, l'instrument, qui me permet de les réaliser ou non. Véritable objet de plaisir ou de souffrance, que j'aime uniquement pour la satisfaction qu'il peut me procurer. Sportive depuis petite, je suis généralement très satisfaite des prouesses physiques dont mon corps est capable. Il arrive souvent à se dépasser, et j'en éprouve une grande fierté. Mais gare à lui, quand il est défaillant et ne me permet pas de réaliser ce que j'ai entrepris. en tombant malade, en étant fatigué, en se montrant fragile ou trop sensible. Ma résistance à la douleur est quelque chose que j'ai toujours cultivé. Quoi qu'il arrive, je me dois de rester stoïque, impassible. Quand je me cogne les orteils, que je me tords d'une articulation ou reçoive des coups, j'endure toujours la douleur en serrant les dents, en silence. Et si des larmes montent parfois aux yeux, je les sèche rapidement du coin de ma manche. Je vis coupé de mon corps, coupé de mon essence d'être humain, de la vie qui m'habite et de mes ressentis. Ma réalité est un monde abstrait et purement mental, un monde froid et exigeant, avec moi-même et avec les autres. Une réalité qui ne me plaît pas et que je cherche à modeler par mes actions, pour qu'elle devienne de plus en plus conforme à mon idéal rêvé. Comme mon corps qui se doit d'être efficace, obéissant et insensible, un vrai petit robot. Aucun répit possible, dans mon monde gouverné par le plus et le mieux. Juste un désir croissant de performance et de réalisation. Une course en avant vers un monde de perfection et un bonheur à jamais repoussé. Dans ce monde conçu pour et par l'action, quelle place reste-t-il à la vie, à la sensation et au ressenti? Ressentir? Mais pourquoi faire? Quelle utilité y a-t-il à cela? Non, je ne prends pas le temps de me poser et de ressentir. J'agis. Je ne m'attarde ni sur mes émotions, ni sur une quelconque douleur ou fatigue. Les besoins du corps peuvent toujours passer après. Après quoi? L'important pour moi, c'est d'avancer, d'accomplir, et par là même de m'accomplir. N'est-ce pas cela le sens même de la vie? Laisser une trace de notre passage sur Terre? Il est très fort ce passage parce que, à mon sens, il décrit tout à fait le malaise ou le mal-être de l'Occident, de l'homme moderne ou dit moderne, de cette civilisation qui croit être le summum de la vie. Ta réaction suite à ce passage-là?
Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de le lire. Ça me touche de voir à quel point, en tout cas, tu l'as rendu vivant et à quel point, du coup, l'entendre de l'extérieur, c'est encore autre chose pour moi. Évidemment, c'est quelque chose de... Ce passage résume mon ancienne manière d'être. D'être sans être, en fait. C'est l'inverse d'être. C'est vivre dans ma tête. C'était comme ça que je vivais. Et que malheureusement, comme tu dis, c'est quelque chose de très occidental, ou en tout cas ce rapport au corps, le corps qui est vu comme une machine, qui est mis à distance, duquel on se coupe, et duquel... alors que le corps, c'est la vie. Il y a la vie qui est dans notre tête, et puis il y a la vie qui nous habite, qui est la vie biologique, la vie mystérieuse, la vie avec tout ce qu'il y a de plus fascinant et de plus incompréhensible, avec ses rythmes, avec la vie, la mort. Parce que la vie dans la tête, c'est pas du tout la même chose. Et parce que dans notre tête, on peut s'imaginer qu'on peut contrôler, on peut s'imaginer qu'on va vers quelque chose, qu'il y a un objectif, qu'il y a un point de départ, qu'il y a une fin, hop, on peut mettre pause, etc. Et puis, ah bah non, là, il se passe quelque chose qui nous va pas, donc on va essayer d'aller plus. La volonté et la raison sont toujours une manière de croire qu'on est maître de tout ça, alors qu'en fait, c'est absolument pas le cas. Et d'où ces grandes souffrances, d'où ces grands malheurs intérieurs. Et moi, en tout cas, mon chemin, ça a été vraiment d'un coup de prendre conscience à quel point j'étais, comme je disais dans ce passage, complètement... mon corps était... En tout cas, j'ai cherché à téléguider mon corps.
Tu parles de la volonté. Et c'est terrible parce que... Enfin, c'est terrible. Parce que pour le coup, on en vient à prendre du recul et on en prend conscience. Tu dis, je répète, hein, véritable objet de plaisir ou de souffrance, tu parles du corps, que j'aime uniquement pour la satisfaction qu'il peut me procurer. Comme tu dis, le sentiment d'être deux, entre la volonté qui commande au corps, mais en faisant abstraction de ce dernier, et quand ce dernier ne file pas droit, attention.
Oui, en fait, la notion de séparation n'était pas forcément évidente quand le corps était là pour procurer du plaisir ou une satisfaction, comme je disais quand j'étais sportive et que d'un coup je pouvais avoir, être la première ou une récompense ou je ne sais quoi. Et puis d'un coup, hop, j'en étais fière de ce corps qui était performant, qui dans l'action était là pour me valoriser. En fait, me valoriser qui? Juste cette image de moi-même. Cette image que je cherchais à tout prix à rendre de plus en plus belle, de plus en plus. Oui, donner cette valeur que je n'accordais absolument pas à mon corps dès qu'il était couvert d'eczéma. Dès qu'il était couvert d'eczéma. Et puis là, ce passage, je l'ai écrit au moment où. Enfin, c'est quand je raconte toute cette période de convalescence où d'un coup. Au lieu d'être capable d'endurer, de toujours faire plus, 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 et de pouvoir travailler plus, de pouvoir, parce que j'étais en thèse, et donc du coup je pouvais avoir un rythme acharné à certains moments, et cette concentration, et ces efforts, et toujours la loi de l'effort, etc. Là d'un coup mon corps, il ignite, il pouvait faire absolument aucun effort, ne serait-ce que me concentrer, lire un petit peu, dès que d'un coup mon attention était plus là, c'était des démangeaisons, c'était de l'eczéma. Ça me grattait, ça me grattait, et plus je persistais, plus ça me grattait, et là, ça a été vraiment pour moi ces déclics complètement. Enfin bon, c'est pas venu du jour au lendemain cette compréhension, mais vraiment, il y a un moment, mon corps, c'était, il y en a qui parlent de burn-out, moi c'était dans le corps, quoi, c'était vraiment ce truc de stop, c'est plus possible, là, la façon de fonctionner d'avant, non, c'est pas possible, je ne peux plus faire d'efforts, ou en tout cas plus me forcer.
Alors tu le dis dans une autre phrase que je n'ai pas encore lue, mais dont je fais part tout de suite aux auditeurs. Conflit entre ma tête qui cherche à tout prix à construire la vie dont elle rêve, et mon corps qui respire au rythme des pulsations de la vie. Alors, cette phrase, j'aimerais qu'on la décortique un petit peu. Est-ce à dire que la tête pense savoir, indépendamment du corps, ce qui est bon pour elle? Alors que le corps, lui, sait mieux ce qui est bon pour lui, si je puis dire. Et alors, finalement, ton cheminement, si la réponse est oui à cette question, comment concilier ce que dit la tête et ce que dit le corps?
Comment le concilier? Alors oui, moi je suis complètement d'accord, il y a deux choses. Il y a la sagesse du corps que j'ai découverte dans toutes ses profondeurs et dans toute son extrême beauté suite à mon cheminement intérieur. Et ça, c'était un cadeau absolument magnifique et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et par rapport à ta question. Il y a cette vie pensée, cette vie dans le corps qui nous habite. Après, il y a la possibilité de relier les deux, mais encore faut-il être déjà en contact avec ce qui est dans le corps. Parce que si on est juste dans nos pensées, on peut vraiment pas comprendre le corps, ou on peut le comprendre comme peut-être les médecins vont dire, bon ben voilà, il y a tel phénomène, tel symptôme, bon, mais c'est un corps machine, c'est pas un corps vivant, c'est pas un corps qui est ressenti, c'est un corps encore abstrait, quelque chose de l'ordre de, on va séparer les parties, et on va pas forcément comprendre viscéralement à l'intérieur de soi, comme quoi tout est unifié, tout ne fait qu'un, et que si je me tords la cheville, je peux avoir mal à l'épaule, ou si j'ai de l'eczéma à tel endroit, ça va être que j'ai pas dit ceci, ou enfin, à chaque fois, c'est tellement à différents niveaux, et par rapport à c'est tout un cheminement à la fois d'écouter le corps et de lui laisser la place. C'est-à-dire ne pas interférer avec nos pensées, à croire que le corps, par exemple, il existe certains livres, certains manuels qui vont dire, ah bah si la partie à droite c'est plutôt la partie masculine, à gauche c'est plutôt le féminin, etc. Les bras ça va être ceci, c'est là, et que selon les douleurs on
La
va,
symbolique, hein, du corps.
voilà, c'est encore une chose, mais pour moi c'est une part de vérité, mais en même temps, ça peut être encore conceptuel, Moi, ce que j'invite les personnes, enfin voilà, par rapport à mon cheminement, moi, c'est, comment dire, c'est vraiment trouver sa propre voie intérieure. Et le corps d'une personne ne va pas être le même corps que ne va pas avoir la même manière de s'exprimer que le corps du voisin ou de la voisine. Et ça, c'est une grande richesse et c'est vraiment se rendre maître de son propre. De sa propre écoute intérieure et de s'autoriser déjà à faire de l'espace, de dire bon, là, rendre les armes, parce que c'est vraiment ça, c'est un conflit intérieur, c'est un conflit que plein de gens vivent. Moi, c'était un conflit armé dans le sens où ça s'exprimait par toutes ces turbulences épidermiques, mais en fait, il y en a qui peuvent le vivre en étant vraiment juste une tête, et puis ils marchent toute la journée, et puis alors, oui, et leur corps, ils vont avoir juste la sensation de leur corps parce qu'ils prennent du poids. Ou ils vont avoir la sensation parce que d'un coup ils vont se créer aussi des maladies chroniques, ou enfin chacun sa manière de d'un coup, comment dire, le corps se rappelle à nous de la manière qui est la plus, je sais pas, en tout cas qui est propre à chacun. Après, pour moi, c'est vraiment un langage particulier et même. Je n'ai de cesse de plonger là-dedans, en tout cas par rapport à ce que je vis moi, et puis par rapport à ce que j'observe aussi chez les autres personnes, de comment, parce que cette sensibilité, c'est aussi quelque chose de, comment dire, qu'on peut transmettre, et que, je me suis un peu perdue, mais comment dire,
Je reviens sur la question, ça te
oui.
permettra peut-être. C'est si la tête dit quelque chose et le corps dit autre chose. Exemple, quand tu es avec Raquel, donc cette psychothérapeute, tu en viens à remettre en question sur est-ce que je suis réellement faite pour être archéologue? C'est énorme, tu es en train de faire ton doctorat, tu es dans le pays pour ça, tu vis ce que tu as vécu, certes, mais tu remets même ça en question. Et jusqu'à maintenant. Tu le dis, hein, à travers ce que je viens de lire, c'est ta volonté qui poussait, qui te menait, où ta tête disait que ce qui est bon pour toi, et toi, moi, le moi-je, l'ego, le mental, c'est voilà, réussir socialement, c'est être cela. Donc, en l'occurrence, archéologue, bon, pourquoi pas, faire d'autres études, faire réussir mon doctorat. Et puis tout ce qu'on peut peut-être imaginer derrière, je ne sais pas si tu imaginais une vie de couple, revenir en France, vivre à l'étranger, bref, on peut se faire des plans sur la comète. Et de l'autre côté, ce qui est en train d'émerger là, c'est le corps qui lui te dit non, à tel point que tu remets en considération ce qui était du domaine de la volonté. Donc là, il y a une brèche qui s'opère. Et la question que je te posais, c'est dans quelle mesure on peut, dans ce cas-là, unir les deux, qui doit, entre guillemets, être aux commandes? Est-ce que c'est le corps en premier, et finalement la tête est au service de ce que le corps, comme un métronome, indique, ou une boussole, admettons, mais que c'est le corps qui donne le la, et que la tête aide le corps à suivre le chemin, ou est-ce qu'il y a peut-être tout simplement une cohabitation entre ces deux univers, entre le corps et l'esprit? Ou, je sais pas, est-ce qu'il s'agit de faire des compromis? Ou dans quelle mesure aujourd'hui tu peux nous dire finalement comment tu mènes ta barque? Quel est pour toi l'essentiel? Est-ce que tu réfléchis à ce que tu vas être, je sais pas, dans 5 ans? Est-ce que tu as des projets? Ou dans 3 ans? Est-ce que tu t'imagines être ceci ou cela? Et est-ce que c'est ta volonté qui décide? Est-ce que c'est le corps?
C'est une bonne question, c'est toute une réflexion sur le temps en fait. C'est-à-dire que la tête, elle peut imaginer un futur, elle peut se projeter, alors que le corps, il est là, dans l'instant. Et ce que je ressens là, dans l'instant, si je me plonge vraiment dans mon corps, ce sera absolument pas identique dans quelques secondes, dans 1 minute, dans 1 heure, et c'est toujours mouvement. C'est toujours mouvement, et puis si je me base sur ce que je ressens, ben peut-être là, je vais avoir envie de, je sais pas, de partir en vacances là à l'instant même, et puis ben, parce qu'il y a comme un besoin de relâchement ou je ne sais quoi, et puis quelques heures plus tard, si finalement, au lieu de penser, par exemple, j'ai besoin de vacances et je vais planifier mes vacances pour dans 2 semaines, dans 3 semaines, je ne sais quoi, si là tout de suite, c'est quoi là, le signal de mon corps, c'est j'ai besoin de repos, hop, je fais une sieste. Et je prends un peu de temps pour moi. Je me couche un peu plus tôt ce soir ou le lendemain, j'ai un rythme un peu plus cool. Me repose la question le lendemain, est-ce que j'ai envie de partir en vacances ou est-ce que j'ai ce besoin urgent de partir en vacances avec ce projet, etc. Ben, c'est pas sûr. Peut-être qu'il sera plus là. Et sauf que si je reste sur cette idée qui est venue et que tatata et que les
La
vacances sont
volonté, ouais.
planifiées, etc. Bah, et après, bah voilà, il y aura le billet d'avion, il y aura ceci, il y aura cela, et puis après, bah, peut-être ce sera plus du tout juste au moment où je suis censée partir, et puis si je continue, je continue. Voilà, vers quoi je vais? C'est vrai que c'est une vraie question dans le sens où revenir vraiment, vraiment, vraiment dans le corps m'a fait qu'il y a eu un moment où c'était presque impossible pour moi de projeter. Donc du coup, c'était difficile au niveau de la société d'un coup de me dire, bon, là, c'est vrai que tout le monde vit dans un rythme vraiment.
Prévoir, projeter, oui, bien sûr, la retraite.
Oui, c'est ça. Et on va pouvoir vivre une fois qu'on sera à la retraite, hein, parce qu'avant, on survit juste, hein. On essaye de faire de notre mieux pour vivre jusqu'à la retraite, et là, enfin, on va pouvoir se reposer. Bon, évidemment, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, enfin, en tout cas, mon chemin, c'est pas de vivre de cette manière-là. J'ai eu les conditions aussi qui m'ont aidée. J'ai été beaucoup soutenue par ma famille, notamment dans les moments de convalescence où c'était très difficile pour moi et que je pouvais pas. Quand je dis convalescence, c'est que vraiment cette agression a fait que du coup, au niveau physique, psychique, enfin, pendant plusieurs mois, voire un an et demi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, en tout cas d'avancer au niveau de mon boulot, au niveau de ma thèse, etc. Enfin bon. Et par rapport à cette notion de projet, c'est vrai que c'est encore une question. Aujourd'hui, quand je projette quelque chose, déjà je demande à l'intérieur de moi en fait. J'essaye de voir que c'est en lien avec mon intuition en fait. C'est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas imaginé. C'est, je sais pas. Par exemple, là, cette émission aujourd'hui, tu m'as appelé, tu m'as proposé de venir suite à la lecture. Bon, qu'est-ce que je ressens quand j'entends ça? Si je ressens un engouement, une émotion, donc c'est à partir du corps, bah là j'y vais. Et puis bon, bah peut-être aurait pu ne pas se faire ou autre, mais en tout cas, c'est vraiment qu'est-ce que je ressens et s'il y a un élan, j'y vais et je le planifie. Voilà. Donc c'est comme, c'est pas ma tête, pour moi en tout cas, c'est vraiment de l'ordre de qu'est-ce qui est là dans mon corps quand avec ma tête, avec mes pensées, je pose plus ou moins dans le temps ou une idée du temps en fait, je me dis bon bah il y aura telle et telle circonstance, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce qui est dans mon corps à ce moment-là. Après parfois c'est vrai que ça peut complètement changer, dans mon corps je peux avoir une résistance ou une peur et puis quelques semaines plus tard hop je peux dire oui à cet appel ou voilà. Mais moi à l'heure actuelle c'est vrai que pour moi de mon vécu mon corps c'est bien plus, mon corps c'est ma tête non. Ma tête elle me ment, ma tête elle m'induit en erreur là, très souvent, elle me fait croire des choses. Et pour moi, la vraie sagesse, c'est vraiment. Oui, ma vérité, c'est mon ressenti. Alors après, parfois, comme tout le monde, ça m'arrive de m'en couper encore quand c'est trop difficile ou qu'il y a quelque chose que j'ai pas envie de voir. Mais s'il y a vérité, si tant est qu'il puisse y en avoir une, c'est vraiment, voilà, ce qui est là au fond de moi, ce que je ressens, ça je peux pas, il n'y a pas de doute.
Il y a justement en 2006, en mai 2006, il y a Raquel, donc ta psychothérapeute, qui te propose de poser une question à ton corps, ou des questions. Alors justement, comment le mental aborde cette proposition d'une psychothérapeute, malgré le fait que tu aies toute confiance en elle, elle te pose une question de prime abord qui est saugrenue.
Oui, parce que moi, en cet instant, j'avais vraiment pas conscience d'être coupée de mon corps. Donc, me poser une question à moi-même, je me disais, c'est complètement absurde de demander, mais qu'est-ce qui se passe? Bon. Oui, bon, je me mettrais à être schizophrène, à répondre par moi-même, une deuxième voix, bon, ok. Sauf que là, en cet instant, bon, bah, j'ai choisi de jouer le jeu parce que j'avais vraiment confiance en elle et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, au point où j'en suis, j'étais tellement mal que voilà, je pouvais bien essayer de. Une question stupide, comme je la jugeais, ou ridicule de plus, bon, voilà. Et oui, à haute voix, j'ai demandé. Je me suis demandé à moi-même qu'est-ce qui se passait. Et là, ce qui a été incroyable, c'est alors que ça faisait des années et des années que j'essayais de savoir ce qui se passait avec mon examen, etc. Mais c'était juste mental. Je m'étais jamais demandé. Mais là, je me suis pas adressée, j'ai pas dit mon corps, qu'est-ce qui se passe. C'était vraiment juste qu'est-ce qui se passe. Et j'ai écouté la réponse. J'ai attendu, en fait. J'ai laissé l'espace pour. Et là, ça a été énorme. C'était vraiment tout un hurlement qui venait des profondeurs et qui m'a brûlé à l'intérieur. C'était vraiment ça le ressenti que j'ai eu en cet instant. C'était pas des mots, c'était. Oh! C'était un. J'ai pas de mots, enfin, c'est juste. Imaginez un immense cri de désespoir étouffé et qui remonte qui par des tripes et qui brûle jusqu'à la gorge et qui sort pas, mais qui me brûlait de l'intérieur. Et c'est ça que j'ai entendu et que j'ai senti. Quand je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Et ça a été énorme pour moi. Donc j'ai à la fois senti, je l'ai vu, je l'ai. Ça m'a bouleversé et en même temps c'était. Oh! C'est possible d'avoir une réponse. Enfin, voilà. Et c'est la première fois que. En cet instant, j'ai compris. J'ai compris la raison d'être de mon eczéma. J'ai compris d'où il venait. J'ai compris cette immense souffrance, cet immense désespoir que je muselais moi-même. Et voilà, et tout de suite ça a été, mais c'était vraiment. C'était magnifique cet instant que je décris dans mon livre, parce que ça a bouleversé à jamais l'image que je pouvais avoir de cet eczéma qui, pour moi, j'avais encore ce doute, ce truc de mais oui, ça doit venir de l'extérieur, je suis peut-être trop sensible, l'extérieur m'agresse, que ce soit les poils de chat, évidemment, on m'a agressé, donc forcément mon corps réagit, ce que je mange, bah, c'est peut-être pas si terrible que ça, l'alimentation, je ne sais quoi, enfin bon, comme s'il y avait toujours danger, danger, danger extérieur, sauf que là, c'était pas ça, c'était pas un danger extérieur, c'était un désespoir immense. Et qui était au fond de moi, et que je voyais, et que je ressentais, et que je, pour la première fois.
Alors c'était quoi? Qu'est-ce qu'il disait ce désespoir?
Il disait rien, il me brûlait. Et surtout, il s'arrêtait là, il sortait pas. Je l'ai pas crié, je l'ai senti, mais c'était un immense cri, mais j'ai surtout senti que ce cri était incapable de sortir.
Mais t'as compris ce que tu nous dis, t'as compris le pourquoi de ton eczéma. Donc t'as compris qu'en fait il y avait quelque chose qui essayait de s'exprimer, qui ne s'exprimait pas, si ce n'est à travers justement l'eczéma en lui-même.
C'est cela, et c'est vraiment comme si vraiment je palpais, je touchais de manière viscérale ce feu qui ressortait avant par les pores de ma peau et que j'essayais de faire taire en me grattant. Et puis je rajoutais, et c'est ça, dans cet instant, je me suis rendu compte que je rajoutais une couche de souffrance et de désespoir à ce qui était déjà en moi, à la fois en ne l'exprimant pas par ma voix et aussi en me grattant, parce que me gratter, c'était très violent. Il y avait des moments où je me grattais la nuit, je me réveillais, j'étais en sang, et c'était vraiment. C'est plus que tais-toi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'automutilation. Et ça, pour moi, ce contact avec mon corps, déjà, j'étais pas douce du tout. Aujourd'hui, je suis d'une extrême douceur, enfin, c'est vraiment une de mes qualités, sans me lancer des fleurs, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important et très. Comment dire? C'est quelque chose qui m'habite, qui est vraiment très présent dans ma vie, à différents niveaux. Et cette douceur, j'étais absolument incapable de me la porter. Et non seulement j'étais incapable de la porter, mais en plus j'étais presque violente avec moi-même dans ce truc de faire taire mes symptômes. Et puis, quand je parle de cette douceur, c'est que moi, j'avance un peu par rapport au livre, mais quand dans mon cheminement, il y a un moment donné, j'ai découvert la biodanza. La biodanza qui est une approche relationnelle à l'autre et qui m'a permis de guérir beaucoup de choses, notamment dans le rapport dans le toucher ou être touché, parce qu'il y a beaucoup de contacts en biodanza. Et notamment, un moment qui a été bouleversant pour moi, c'était un moment où on nous propose une auto-caresse, c'est-à-dire, et c'était juste de se toucher, c'était le visage, juste de se caresser soi-même le visage. Et moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, c'était absolument bouleversant pour moi, parce que c'était la première fois de ma vie que je touchais mon visage avec douceur. Je dirais pas avec amour, parce que peut-être à cet instant, j'étais pas encore en capacité complètement de ressentir tout cet amour dans mes gestes, mais c'est juste la proposition de ne serait-ce que se caresser, alors que moi, mon visage, c'était juste je me tartine et je mets quelque chose de la crème pour apaiser un peu l'eczéma, mais c'était pas l'apaiser, Oui, c'était vraiment je le fais taire et puis je cache et puis hop et puis vite fait on n'en parle plus mais surtout pas m'apporter de l'amour, m'apporter de la douceur déjà et l'idée ne serait-ce que ça c'était limite déplacé c'était mais alors m'apporter de l'amour j'en étais bien loin. Apporter de l'amour à mon propre corps non c'était vraiment quelque chose mais non mais c'est ça peut pas être moi et puis même comme un truc de l'ordre mais presque du jugement à ce niveau-là. Ça voulait dire accueillir le fait que je suis quelqu'un de sensible, quelqu'un qui aime recevoir, quelqu'un qui a des besoins. Parce qu'il y avait vraiment ce truc-là dans cette image que j'avais de je suis forte, je peux y arriver, la performance, etc. Je niais tous mes besoins, je niais tous mes besoins, tous les besoins du corps, tous les besoins de la femme que je suis, tous les besoins de. Oui, jusqu'à mon besoin d'amour, en tout cas d'amour de moi, oui, c'était vraiment quelque chose que je mettais complètement à distance.
Alors, voilà ce que tu nous dis. Ma guérison, je l'ai commencée dès l'instant où j'ai arrêté de combattre mon hypersensibilité. Je l'ai acceptée. Mieux encore, je l'ai faite mienne. J'y puise aujourd'hui mes forces. Il y a bon nombre de personnes que j'ai pu rencontrer qui sont hypersensibles et qui voient cette hypersensibilité comme étant un handicap. Parce que le sentiment que tous les agressent, et là pour le coup pas tant les aspects extérieurs, que ce soit les poils de chat ou l'alimentation, non c'est pas que ça, ça peut être les gens tout simplement, d'être au milieu des gens, de prendre le métro, d'avoir à subir pour le coup. L'actualité, les informations, le fait de sortir dans la rue, bref, quand on est hypersensible, il y a cette idée de dire comment est-ce que je peux faire pour me protéger? Et là, de ce que tu nous dis à travers cette phrase, c'est que cette hypersensibilité, tu l'as fait tienne. Est-ce à dire que cette hypersensibilité, auparavant, tu la rejetais dans le sens, effectivement, où la faute, entre guillemets, revenait à l'extérieur, c'est les autres qui m'agressent, c'est tel élément, telle nourriture, telle crème. Tu nous l'as dit tout à l'heure dans une certaine mesure, mais est-ce qu'il y a la notion, avec le recul, d'avoir à se protéger, ou c'est uniquement, il peut y avoir peut-être plusieurs portes, à aller en soi pour finalement peut-être comprendre que l'extérieur ne m'agresse pas. Ou alors que cet extérieur est un reflet de quelque chose qui est en moi et que je ne veux pas voir.
Il y a beaucoup de choses dans ta question. Dans ma phrase, quand j'ai dit mon hypersensibilité, je l'ai faite mienne, c'est surtout arrêter de la combattre. Déjà, accueillir le fait, reconnaître que je suis hypersensible. Parce que finalement, pendant des années, je le mettais vraiment complètement distant. Donc, du coup, j'étais coupée de moi-même, premièrement. Et à ce moment-là, j'avais pas forcément l'impression que c'était l'extérieur, même si. Disons que j'avais pas vraiment d'interprétation, même si j'avais l'impression de me défendre un peu de l'extérieur, mais j'en avais pas conscience. Après, quand j'ai commencé à accueillir complètement cette sensibilité d'un coup, je suis là, oula, oui, besoin de et telle chose que je mange, ou est-ce que c'est la pollution, est-ce que c'est ceci. Enfin, quand j'étais vraiment au summum de mes crises pendant toute cette période de convalescence, il y avait ces peurs, et donc du coup, cette peur de l'extérieur et ce besoin de me protéger dans ma bulle. Et dans ce que tu dis, évidemment, aujourd'hui, je le vois, mais ça a été tout un processus, à quel point ce besoin de se protéger, c'était à différents niveaux, et surtout, quel est cet extérieur que je mets à distance, et est-ce que c'est vraiment l'extérieur, est-ce que c'est moi-même, est-ce que c'est une partie de moi-même que je ne veux pas voir, que je vois face à moi et que du coup ça, je ne l'accueille tellement pas en moi que du coup ça me fait réagir de cette manière-là, etc. Enfin bon, tout, c'est pas pour rien que ce rapport entre intérieur et extérieur ayant autant subi, autant eu de difficultés avec cette peau qui suintait, cette peau qui avait des crevasses, etc. Dans le toucher, être touché, toucher l'autre, enfin la limite entre moi et l'autre, ça a été tout un grand questionnement et d'une certaine manière, ça continue encore aujourd'hui à d'autres niveaux, plus au niveau énergétique dans ce que je vis actuellement. C'est vraiment quelle est la limite à la fois de mon corps, du corps de l'autre, de ses paroles, les émotions de l'autre. Jusqu'où l'autre ressent ça et moi, qu'est-ce que ça fait résonner chez moi? Évidemment, moi j'étais une éponge. J'étais une éponge à cette période-là de ma vie. Aujourd'hui, j'ai appris à le vivre autrement. Et quand on parle de protection, de qui se protège-t-on? Est-ce qu'on se protège de l'autre ou est-ce qu'on se protège de soi? Et dans cette idée de se protéger, moi ce que j'ai vu, c'est au fur et à mesure, tous les verrous, toutes les protections que j'ai fini par lâcher, en général, c'est pas de l'ordre du volontaire, hein, c'est vraiment quelque chose qui se fait, d'un coup c'est une évidence, toc, il y a quelque chose qui s'ouvre, et ouf, et ben ça m'a permis de retrouver de plus en plus cette unité en moi, en fait. Cette protection par rapport à un extérieur m'a permis de moi me sentir plus complète et plus vaste, et donc. Finalement, cette séparation qu'il y avait avec l'extérieur, c'était une séparation à l'intérieur de moi. D'où cette difficulté, avant, dans cette protection, finalement, oui, c'était encore ce truc de j'étais coupé de moi-même, en tout cas de différents espaces en moi.
Alors comment aujourd'hui tu arrives à faire la distinction entre finalement ce que tu ressens quand tu es face à quelqu'un, quand tu es dans une situation? Comment tu fais la distinction entre est-ce que finalement ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à l'autre?
Bon, ce qui est très par rapport à tes questions, ce qui est complexe, c'est par rapport au comment dire à tout ce qui s'est développé chez moi dans mon ressenti, dans le fait que d'un coup je commence aussi à donner des soins, et dans cette sphère-là, je ressens, et ça m'arrive de vraiment ressentir l'émotion de l'autre et la laisser me traverser. Et puis d'un coup, il y a des moments où je suis là, bon, est-ce que c'est mon émotion? Est-ce que c'est l'émotion de l'autre? Est-ce que je suis complètement en fusion énergétique avec l'autre? Et que d'un coup. Et bon, parfois, il peut s'avérer que l'émotion de l'autre vienne faire écho avec ma propre histoire, mais dans certains états, en tout cas dans l'état dans lequel je peux être dans les soins, non. Il y a vraiment des moments où je sens que c'est juste une énergie et que l'énergie de l'autre passe à travers moi et ressort. Presque de manière physiologique aussi. Il n'y a plus une histoire accrochée à ça. Et pour moi, au niveau énergétique, en tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre du palpable pour moi. On est tellement relié, on est tellement dans. Là, pour le coup, la frontière de la peau n'en est plus une. À la fois, la peau, elle nous permet de nous séparer de nos corps physiques, mais au niveau de nos corps énergétiques, tout est complètement imbriqué. comment dire, dans tout cas dans les échanges d'énergie qui peuvent se faire. Et pour moi, à l'heure actuelle, bon, j'avance par rapport au livre, mais dans ma conscience du corps, dans toutes les profondeurs dans lesquelles je suis allée, dans l'écoute de moi-même et après tout ce qui s'est éveillé via le yoga et différentes pratiques, j'en suis à vraiment sentir que l'image, en fait, on est souvent enfermé par cette image du corps physique, cette image avec des oreilles, deux yeux, un nez, une bouche, des bras, des mains, etc. Mais au niveau énergétique, pour moi, je suis juste un tube. Je suis un, voilà, ce côté, ce canal, et on est tous ça, sauf qu'on ne le sait pas, on n'a pas conscience. Et quand on rencontre une autre personne, bah, c'est juste, il y a un afflux d'énergie qui rencontre un autre, c'est un affluent qui en rencontre un autre, et puis bah, comment ça se mélange? Moi, c'est ça que je vis aujourd'hui. Comment cet affluent rencontre l'autre, et parfois ça peut être une grande rivière qui rencontre un tout petit cours d'eau, et puis ben, peut-être que la grande rivière en rencontrant le cours d'eau va faire bousculer quelques petits barrages, et puis voilà, et puis du coup, moi c'est comme ça que cet effet, c'est plus. Je sais pas, on parle de résonance, on parle d'interaction, on parle de. Mais après, c'est la question, est-ce qu'on est deux, est-ce qu'on est un, est-ce que, enfin, à quel niveau on se situe, et. Bon, là, on est vraiment, on s'est éloigné du point de départ de mon livre, mais c'est vrai que c'est tout mon cheminement de partir du 2, de partir du moi et l'autre, et oula, moi je me protège et l'autre je le tiens au loin, pour après me rendre compte que ce que je tiens au loin c'était moi-même, après aller à l'intérieur de moi, et après me rendre compte que j'inclus l'autre, et enfin bon, voilà, c'est tout un chemin d'un rapport intérieur et extérieur, cette fluidité, cet échange, enfin oui, pour aller jusqu'à l'échange, de la protection pour aller finalement à je m'ouvre et après la circulation peut se faire. C'est vraiment ça mon histoire en fait.